Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Autobiographie, récit imaginaire nourri de rêves, d'espaces, de musique et de films. Road movie que scande la mythique Martine, D28, c'est tout cela sans doute, et une passionnante plongée dans un univers musical qui enchante les connaisseurs et éveille l'intérêt des néophytes. Ce qui ajoute une forte charge émotionnelle à cet ouvrage, c'est l'idée de la transmission. Car ne pas briser le cercle, titre de ce roman, c'est continuer à faire vivre et circuler la musique, l'amour, la fraternité, dont un objet, nous verrons lequel, devient le symbole. Merci à Jean-François Vessière d'être venu nous rejoindre à ce micro pour nous parler de son roman. Jean-François Vessière, bonjour.
Bonjour.
Alors, journaliste, homme de radio, mais aussi de plume, puisque vous avez collaboré au mensuel bien connu Rock and Folk, très connu d'ailleurs, passionné de musique, auteur, compositeur, interprète. Vous avez produit 4 albums sous le nom de Jefferson Noisé, de la country, du folk blues, mais ce qui est rare, chanté en français.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, vous avez écrit en 2018 un recueil de nouvelles, Chronique du bord de Garonne, et d'ailleurs, aux éditions Le Solitaire. Et voici votre premier roman, Ne pas briser le cercle, édité par l'édition Nombre 7. Je n'ai rien oublié.
Vous n'avez rien oublié, c'était impeccable.
Alors, nous écoutons un petit peu de musique pour lancer l'entretien.
I was standing by my window on a cold and cloudy day when I saw the earth come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
Alors, pour nos auditeurs, Jean-François Vessière, de quoi s'agit-il?
Alors, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de Randy Travis, c'est ça que nous venons d'écouter.
Voilà. Oui.
Et pourquoi, à votre avis, pourquoi j'ai proposé ce morceau?
Alors, je pense que c'est plutôt Merle Travis que Randy Travis.
Oui, 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 je me trompe. Oui. Will the circle be unbroken?
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et alors, ça a un rapport avec votre titre?
Alors, ça a un rapport avec mon roman, puisque, en fait, le titre, Ne pas briser le cercle, c'est le titre de cette chanson, qui est un traditionnel américain, puisque quand on va aux États-Unis, quand il y a un mariage, une réunion, un deuil, etc., il y a deux chansons qui sont incontournables, c'est Will the Circle Be Unbroken et Amazing Grace. Donc c'est les deux chansons que les Américains connaissent.
D'accord, voyez, vous allez nous apprendre plein de choses, j'en suis sûr.
Et c'est une vieille chanson qui a été... En fait, la musique a été importée d'Angleterre et les paroles ont été remises par quelqu'un des États-Unis.
D'accord.
Et donc c'est devenu la chanson traditionnelle dans les années 20 qui a été popularisée par un des premiers groupes qui a lancé la country moderne qui s'appelait la Carter Family.
Voilà, vous allez nous initier à tout cela. Alors... pour nos auditeurs, si vous permettez, pas pour vous, parce que vous connaissez, je vais donner une traduction, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une des meilleures que j'ai trouvées. Par un froid matin de brouillard, j'allais à ma porte et je vis venir le corbillard pour prendre ma mère et l'emporter. Puisse le cercle se reformer. Au revoir, adieu, adieu. Un meilleur foyer nous attend dans les cieux, oui, dans les cieux. Voici le titre et le thème de votre ouvrage.
Alors oui, c'est un peu le thème de mon ouvrage, c'est-à-dire une thématique sur la transmission, la transmission artistique, avec un fil rouge qui est une guitare de marque Martin, donc qui est un peu une des Rolls de la guitare acoustique, et qui date de 1939, donc c'est une D28 1939.
Et puis, vous aviez envie de témoigner, vous vouliez perpétuer quand même une histoire par l'écriture.
Voilà, tout à fait, oui. Je voulais perpétuer une histoire, c'est-à-dire que, en fait, au départ, pour être franche avec vous, au départ, c'était une nouvelle, puisque moi, je suis plus écrit.
Oui, alors vous avez écrit. Oui, vous avez écrit dans pas mal de revues. Oui. Vous avez écrit des chansons. En général, c'est plus concis.
C'est du concis. Et donc, au départ, c'était une nouvelle que j'ai fait lire à un ami proche qui m'a dit, mais tu devrais en faire un roman. Et donc, j'ai pris le challenge à bras le corps. Et donc, j'ai essayé de faire un roman.
D'accord. Alors, l'idée du cercle, après, sur le moment, je me suis interrogée, parce que d'habitude, on parle d'une chaîne humaine, hein, des ancêtres qui se transmettent. Là, c'est un cercle. Pour la continuité...
C'est pour la continuité, oui. Oui. Que le cercle ne se brise pas.
Voilà. Alors, revenons au roman. Vous le commencez par l'annonce d'un décès. Et une très belle déclaration d'amour. Alors là, déjà, il y a un cercle que je vois, moi. La mort n'est pas une fin.
Non, c'est ce que je veux. C'est effectivement un livre sur la musique, mais c'est aussi un livre sur l'amour, quoi.
Oui.
L'amour de la musique, mais l'amour entre des hommes qui pratiquent la musique, l'amour ou l'amitié entre des hommes qui pratiquent la musique, et puis l'amour entre un homme et une femme, dont le héros, lui est musicien, et son épouse ou sa compagne est écrivaine.
Voilà.
Donc il y avait cette transmission aussi à la fois de la musique et de l'écriture.
Et de cette idée de perpétuer la mémoire de ces personnes. Je me suis posé la question, vous croyez vous-même en la vie éternelle?
Non,
là, c'est la question piège.
C'est la question piège. Je m'y attendais pas. Non, absolument pas.
Non. Alors, deuxième épigraphe en tête de votre roman, c'est nous qui avons besoin des morts, pas l'inverse. C'est-à-dire ?
C'est nous qui avons besoin des morts, parce qu'en fait, on a besoin du passé pour pouvoir faire un futur. Oui. Si on n'a pas de passé, on n'a pas de futur.
Oui.
Donc, dans notre mémoire, les morts comptent. Les morts comptent pour notre futur, pour élaborer le futur, quoi.
Oui. Et vous n'avez pas l'impression que justement on essaie de faire table du passé en ce moment ?
Ce qui est un peu dommage. Qui est un peu dommage, parce que même au niveau d'un pays, un pays qui n'a pas de passé ne peut pas avoir de futur, quoi.
Bien sûr. Oui, oui.
C'est comme une maison sans fondation.
Tout à fait. C'est branlant.
C'est branlant.
Oui. On fait la connaissance de Cyril avec sa gratte ou sa six cordes. C'est la guitare, vous voyez, maintenant je suis au courant. Donc, sa guitare. Il va... D'emblée, on sent que c'est quelqu'un qui a le goût de la musique, forcément. Est-ce que c'était quand même vous, là-dedans ? On vous retrouve, sans doute, à bien des moments. On ne peut pas s'en empêcher. Hein.
Effectivement, c'est pas moi, mais il y a un peu de moi. Il y a un peu de mes sentiments vis-à-vis de la musique, la pratique de la musique, ça c'est clair.
Oui, oui, oui. Et là, il va faire une rencontre qui va être décisive. La rencontre, alors pardonnez-moi l'accent, hein, Vince Chestnut,
oui.
Venu du Kentucky, c'est ça vous
voilà, tout à fait, Vince.
Voilà.
En fait, qui est un soldat qui a fait le débarquement, puisque en fait l'histoire se déroule à la fois en France d'abord, côté méditerranéen, ensuite à Paris, ensuite aux États-Unis, ensuite
après,
on revient à Paris, ensuite sur la côte basque.
Voilà, oui.
Donc lui habite sur la côte méditerranéenne, et il fait la rencontre de cet Américain qui a épousé une Provençale juste après le débarquement, il l'a connu, et comme lui est un très 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 bon guitariste, puisqu'il vient du Kentucky, il vient d'une famille de musiciens, il lui apprend la guitare et une technique de guitare qu'on appelle le picking, qui à l'époque était pratiquement inconnue en France, et donc il devient un très 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 bon guitariste grâce à ce Vince.
Alors justement, vous voyez, un peu plus loin, j'allais vous poser la question, mais on en parlera, sur le picking. Donc, vous savez, j'ai fait des recherches aussi, parce que j'ai trouvé un Vic Chestnut. Ça n'a rien à voir ?
Non, ça n'a rien à voir.
D'accord. Alors, vous apprenez de lui la pratique, mais pas de solfège. Alors là, vous allez intéresser beaucoup de jeunes qui souffrent.
Non, mais il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font de la guitare ou qui jouent d'un instrument sans apprendre le solfège.
Oui, voilà. Oui. Non. Il vous montre aussi l'importance des guitares. Alors, il lui montre plutôt. Cyril a une écho folk.
Oui.
Alors, ce n'est pas le haut de gamme.
Ben non, on est dans les années 60. Donc, en France, on n'a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de guitares haut de gamme. Ou si on en a, ça coûte très, très, très cher. Quoi, non.
Je me suis posé la question sur Brassens. Qu'est-ce qu'il avait comme guitare?
Oh, il avait une guitare classique à l'époque.
Oui.
Mais alors, si on veut jouer du folk américain, il vaut mieux avoir une guitare acoustique avec des cordes en fer plutôt qu'en nylon. Quoi.
Voilà. Voilà. Et Vince a justement une guitare acoustique. Alors, il y a des rencontres effectives, mais aussi une éducation artistique. On lui parle des grands. Peut-être qu'en effet, Cyril, qui était jeune, ne connaissait pas tous les grands noms de cette musique dont nous allons parler plus explicitement tout à l'heure.
Ben, vous savez, au début des années 60, puisque ça se passe au début des années 60, en France, on ne connaissait rien de la musique américaine.
Oui.
La seule musique américaine qu'on connaissait, c'était les yéyés qui retraduisaient quelques chansons américaines, d'ailleurs, des fois pas très bien, qui faisaient des reprises, mais tout ce qui était country, folk, blues, etc.
Et c'est vrai que même Bob Dylan Bob Dylan, je suis venu l'écouter ici à Toulouse.
Oui, mais Bob Dylan, il est arrivé en 64.
Oui, beaucoup plus tard. Oui, plus tard quand même.
63, 64.
Et John Baez aussi. Non,
et John Baez aussi.
Et deux fois, elle est venue.
Oui. Donc, à cette époque-là, il ne connaissait pas. Donc, pour lui, c'est une découverte, quoi.
Alors, par exemple, il y a Merle Travis, justement. Alors, j'aimerais qu'on écoute tout à l'heure un exemple de sa dextérité à la guitare. Et en particulier, alors, est-ce que vous connaissez certainement Cannonball Reg?
Oui, bien sûr.
C'est voilà. Alors, on l'écoute. Alors, je suis en compagnie de Jean-François Messière et nous parlons de son ouvrage « Ne pas briser le cercle ». C'est à la fois un roman et une initiation à un monde musical que beaucoup de Français ne connaissent pas. Moi, je dois avouer que je ne connaissais pas bien, mais ça m'a vraiment donné envie de mieux le connaître. Vince se lance dans la musique, dans la guitare et dans le chant. De quoi vit un jeune musicien à l'époque?
Mais lui, il part aux États-Unis.
Hein. Non, mais avant, il fait la Manche quand même.
Ah ben oui, il fait la Manche.
Imagine la tête des parents.
Vince, il fait la Manche et puis il joue dans des groupes de baloches, comme on dit. Donc il est guitariste dans un groupe de baloches et il fait la Manche. Et Cyril apprend à faire la Manche avec Vince parce que c'est une façon aussi de gagner sa vie, quoi.
Et dans le fond, je vais vous dire, vous m'enlevez un préjugé. Finalement, il n'y a rien de honteux de faire la Manche dans ce cas-là. En fait, dans les métros ou sur les trottoirs, on voyait effectivement de très bons musiciens qui jouaient et à qui on donnait de l'argent. Ce n'était pas mendier comme ça non plus.
Hein, ben non, à partir du moment où on joue, vous avez par exemple en France, Paul Naref, il a commencé dans le métro. Hein. Il y a plein de gens qui ont commencé dans le métro. Hein.
Oui.
Puis
oui,
maintenant,
oui.
Vous avez des gens au feu rouge qui font des exercices de cirque, etc.
Oui,
donc, c'est une façon de se montrer.
D'avoir un public, de gagner un peu d'argent.
Voilà.
Et puis peut-être la chance d'être repéré par quelqu'un.
Oui, et puis la chance aussi de pratiquer.
Oui,
de pratiquer,
ça.
De...
Oui. Oui, oui. Alors, voulu par les parents, il faut qu'il termine sa licence. Et une fois la licence en poche, il part aux USA.
Alors, il part aux USA parce qu'en fait, au départ, il y a une grosse rupture sentimentale, au départ.
Alors, on va en parler, mais vous avez raison, oui, et on parlera de cette rupture avec, il a dénommé Jacqueline, mais le départ aux USA, on a l'impression presque que dans le cas de cette forme de musique, c'est un passage obligé.
Mais il découvre avec Vince, il découvre cette musique, il découvre la façon de la jouer, et donc il a envie d'aller aux sources.
Oui.
Et les sources, c'est les États-Unis,
voilà.
Quoi.
D'une part, il s'éloigne de l'objet de son amour qu'il rejette, et d'autre part, il va aller aux sources. Et là, dans ce monde, Les adresses circulent, les groupes se forment, se séparent, se reforment. Je l'avais vu ça avec le jazz, où j'avais à une époque, j'avais interviewé beaucoup de jazzmen, et je me rendais compte que je croyais qu'ils étaient avec un groupe, mais non, ils avaient changé, et c'était normal. Ça fonctionnait comme ça.
Oui, oui, mais ça fonctionne toujours,
toujours
comme ça.
Toujours comme ça. Oui, oui. Alors là, à New York, il rencontre la sœur de Vince, son ami, celui qui est devenu son ami, Trisha. Et c'est vrai qu'il y a le bouche à oreille, enfin, c'est les rencontres. Et ça, c'est assez formidable.
Oui, c'est-à-dire qu'il débarque à New York parce que Vince lui a dit, bon, il y a ma sœur qui tient un restaurant à New York, si tu veux y aller, tu pourras peut-être trouver du boulot, puis peut-être qu'elle pourra t'héberger, etc. Et là, il rencontre, dans ce restaurant, donc, il y a un chanteur de country qui vient tous les soirs jouer. Et donc, Cyril commence à regarder comment ce joueur de country joue de la guitare, chante, etc. Et l'autre est intrigué par ce français qui le regarde et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu connais à la country, toi ?» Et donc, il commence à parler de country et donc il y a une amitié qui se forme entre ce vieux chanteur de country et ce jeune guitariste français et ce chanteur de country va lui dire ben écoute, je pars en tournée, moi j'ai pas envie de m'occuper de. Je suis trop vieux, j'ai pas envie de m'occuper de tout le bazar qu'il y a autour, charger le matériel, décharger, etc. Viens avec moi, tu feras ton expérience avec moi.
Voilà.
Et c'est comme ça qu'il va faire son expérience.
Avec Randy Harris quand même.
Voilà, voilà.
Voilà. Oui, oui. Donc là, il y a une amitié, de l'estime, et on voit une relation quasi filiale.
Oui, quasi filiale, oui.
Et à un moment donné, il parle de la guitare de Randy. Depuis son arrivée au Old House Café, la guitare de Randy fascinait Cyril. Son clair, cristallin, excellente projection, basse profonde, l'instrument parfait. Il mourait d'envie de l'essayer. Randy ne lui avait jamais proposé. Un jour où il avait un peu picolé, il tenta sa chance. « Randy, tu ne me laisserais pas essayer ta guitare ?»« Petit, j'y tiens un brin à cette caisse. Je la prête rarement. C'est un cadeau pour mes 40 ans offert par une nana un peu givrée, accro à mes idées. » etc., etc. En final, je ne sais pas s'il va lui prêter.
Si, si, il lui prête. Il lui prête.
Oui, voilà. Alors,
il fera, d'ailleurs, par la suite, il fera plus que lui prêter.
On en parlera, oui, oui, oui. Ah, il y a des choses sacrées, là. Randy a justement une Martin D28. Vous pouvez me dire ce que c'est exactement ce genre
alors, Martin, c'est une des marques de guitare réputées aux États-Unis qui a été créée dans les.
Il n'y a pas mieux.
Au 19e. Si, si vous voulez, une guitare, il y a plusieurs types de guitares. Donc la Martin est une guitare qui est faite pour de l'accompagnement, pour du picking, etc. Et il y a plusieurs types de formes de guitare acoustique.
Ouais.
Et celle-là, elle date de 1939. C'est une D28, c'est une série spéciale. Et donc, c'est un peu une des Rolls de la guitare, quoi, de la guitare acoustique.
Voilà.
Quoi.
Alors, il la lui prête. Ce fut comme s'il débarquait sur une autre planète. Ça le changeait de sa guitare folk italienne. Ses doigts semblaient glisser, comme patiner sur le manche avec une telle aisance qu'il en fut tout étonné. Ces sensations, il les avait déjà ressenties quand Vince lui prêtait sa Gibson. Mais là, le plaisir était tout autre. Jamais il ne s'était entendu produire des sonorités si pures. Les accords, les pickings, les solis en devenaient sublimes, comme si par miracle, sa technique avait progressé en quelques minutes. Oui, Randy avait raison, cette gratte t'envoyait au paradis. Alors, picking, c'est quand on accompagne un chanteur, un chant, ou qu'est-ce que c'est ?
Le picking, c'est une technique un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il y a la technique avec un médiator, ou en gratte. Et puis, il y a une technique où on joue avec les trois doigts. C'est-à-dire qu'on partage le manche de la guitare en deux. C'est-à-dire qu'on a les cordes graves. Sur les cordes graves, on fait les basses avec le pouce. Et avec l'index et le majeur, on fait la mélodie avec les trois autres cordes, les trois autres cordes aiguës.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est le picking.
Mais on l'utilise quand alors ? Pas pour accompagner un chanteur, non ?
Pour s'accompagner
soi-même.
Pour s'accompagner soi-même.
Mais il faut chanter.
On peut chanter, mais on peut jouer du picking aussi en faisant simplement.
Avec trois cordes seulement.
Oui, avec trois doigts.
Oui,
c'est avec
doigts.
Six cordes et trois doigts.
D'accord.
Ça marche
oui.
beaucoup mieux comme ça.
Oui, d'accord. Alors, évidemment, il découvre d'autres cabarets et il découvre Bob Dylan à cette époque-là. Il était vraiment à ses débuts. Hein.
Oui, oui.
À un moment donné, vous en parlez. Et oui, il s'appelait Bob Zimmerman, effectivement. Et il avait fait sa première apparition professionnelle en vedette américaine de John Lee Hooker, un nom mythique.
Un nom mythique, oui.
Oui, oui, oui. Voilà. Alors, il part faire une tournée avec Randy. D'abord, ça c'est très drôle parce que qu'il lui propose, parce qu'il commence à se sentir vieillir, un travail de manutentionnaire, en quelque sorte, de ready, la route, hein, d'aider à faire la route. Et puis, en finale, de partenaire. Alors là, grande émotion. Et il fait une étape à Nashville. Alors Nashville, c'est mythique, ça aussi.
Alors il fait une étape à Nashville, oui. Il descend à Murfreesboro, qui est à 40 km de Nashville. Et donc, bon, il est dans sa famille. Lui, bon, il est obligé, en attendant qu'il y ait une nouvelle tournée, il retrouve un petit travail à Nashville. Et ensuite, ils repartent en tournée où ils vont aller au Texas, San Antonio, etc.
Vous savez pourquoi je me suis arrêtée sur Nashville? Parce que j'ai vu un film très, très bon. J'aimais beaucoup les films de Robert Altman. Mm-hmm. Et il a fait un film que vous avez sans doute vu,
oui, bien
évidemment.
Sûr. Mm-hmm.
Alors maintenant, je ne me souviens plus très bien s'il était excellent. Bon. Mais ça m'avait frappé parce qu'il y avait beaucoup. On était vraiment dans la musique là aussi. Hein.
Alors, il y a un très beau film. Il y a un de vos invités récemment qui en a parlé, je crois que c'est Christian Autier, qui a parlé d'un film de Clint Eastwood qui s'appelle Honky Tonk Man,
oui.
Et qui est un des plus beaux films sur la country, et sur,
qui raconte
un peu l'histoire de Hank Williams, qui a été un des grands de la country, et qui fait un petit peu sa marche vers Nashville pour devenir une star. Et en fait, au moment où il peut devenir une star, en fait, il ne peut plus chanter parce qu'il est atteint de tuberculose.
D'accord.
Et donc, c'est un très, très, très grand
très
film
bon
de
film.
Clint Eastwood
nous surprendra toujours.
Oui, oui.
Vraiment. Alors, justement, on vient de parler de country. Bon, dans votre livre, on parle de blues, de country, de folk. Dites-moi un peu les différences, pas trop, trop longuement. Hein,
mais... Non, mais c'est très simple. Hein. Le folk, c'est une musique de la ville, qui a été faite par des gens de la ville, notamment à New York dans les années 60, avec Dylan, John Bess, Don Paxton, etc. Le blues, bon, ben, c'est la musique qui vient du Mississippi, enfin du delta du Mississippi. Du blues, donc c'est la musique des Noirs.
Oui.
Et disons que la country, c'est la musique des Blancs, c'est le blues du Blanc.
C'est pour ça que le blues, il y a toujours une notion, je trouve, mélancolique.
Mais dans la country aussi, c'est pareil.
Oui, dans la country aussi, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, c'est vrai.
Parce que dans nos blues, les chanteurs noirs, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent « Ma nana m'a quitté, j'ai travaillé, je me suis fait... »
Oui, c'est quand même le chant
agresser,
des esclaves. Hein.
Voilà, c'est un peu le chant des esclaves et des gens qui sont soumis à la loi des Blancs. Donc, ils racontent leur vie quotidienne, mais en country, c'est le blues du Blanc.
Je suis en train de conduire
mon camion, je suis à 800 km de chez moi, je ne vais pas voir ma femme, je ne vais pas voir mes enfants,
ou
ma femme m'a quitté, ou mon homme m'a quitté, ou ce soir, je suis allé boire un coup, puis j'étais complètement torché.
Voilà, c'est la vie quotidienne.
C'est le blues du...
La vie quotidienne,
voilà, c'est le quotidien.
Mais avec, quand même, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les films, il y a les lectures que j'ai beaucoup aimées, mais on imagine cette vie quotidienne, bon, soit dans des plantations, évidemment, dans le sud des États-Unis, en Louisiane et ailleurs, mais également ces grands espaces dans lesquels travaillaient des fermiers qui n'étaient quand même pas tous de riches propriétaires.
Hein. Non.
Ouais. Et c'est vrai que cette musique-là, elle évoque ça. C'est très évocateur, en fait.
C'est-à-dire que on peut parler du blues, mais bon, peut-être que le blues, c'est la musique des gens qui souffrent, quoi.
Ouais.
Et donc, bon, le seul moyen de...
D'où l'expression avoir le blues.
D'où l'expression avoir le blues, quoi.
Voilà, oui. Je me suis posé la question de savoir si pour apprécier cette musique, ces musiques, il ne faut pas connaître quand même un peu l'histoire de l'arrivée des premiers colons, l'histoire de l'esclavage, de la guerre de sécession... les films et les acteurs mythiques qui ont tourné dans ces films.
Moi je pense pas.
Vous ne croyez pas. Quand même, il y a des points de repère, ça évoque...
Moi, je ne pense pas. Quand vous écoutez une chanson à la radio, que ce soit française ou en anglais, ou en français ou en anglais, elle vous plaît ou elle ne vous plaît pas. Vous allez voir un film, il vous plaît ou il ne vous plaît pas. Vous n'avez pas besoin que vous regardiez un tableau, il vous plaît ou il ne vous plaît pas. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire. C'est après que vous allez peut-être découvrir l'histoire. Mais moi, il y a des morceaux de rock ou de country ou de blues, etc. Bon, j'ai pas besoin de savoir quel est le chanteur ou quelle est la chanteuse.
Ah non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça.
D'accord.
Je veux dire que quand vous écoutez, en même temps que vous avez plaisir à écouter la musique, vous imaginez les lieux et les hommes.
Ah, bien sûr, mais après, si vous voulez rentrer dans l'historique, effectivement, de la musique, il faut...
Ça décuple le plaisir. Peut-être. Bon. Vous n'êtes pas sûr?
Non, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie, qui ont simplement l'envie d'écouter quelque chose qui leur plaît, qui flatte les tympans, qui leur plaît, ou qui leur donne de l'émotion. Quoi. Voilà, c'est ça, quoi. La musique, c'est un bouquet musical. Hein. C'est un bouquet de fleurs, mais un bouquet musical. Quoi.
Oui. Remarquez, effectivement, j'ai traversé la rivière. Attendez, c'était une rivière très connue, dans les westerns américains. J'ai trouvé une toute petite rivière, plus petite que la Garonne, je crois. Et moi qui m'en faisais un monde, bon, j'étais un peu étonnée. Mais c'est vrai que je trouve que parfois ça peut apporter un plus. En tout cas, ensuite, donc, il part à San Antonio, toujours, nous suivons Vince, évidemment, Cyril. Et là, il veut honorer quelqu'un. Il va à cet hôtel... où habitait un musicien très connu. Qui est-il ?
Alors non, il n'habitait pas. En fait, c'est les premiers enregistrements qui ont été faits dans cet hôtel à San Antonio.
Ah bon ? Les enregistrements dans un hôtel ?
Oui, c'est les premiers enregistrements qui ont été faits. Je ne sais plus combien de morceaux, mais j'ai la mémoire des fois qui flanche. Et où Robert Johnson a enregistré ses premiers titres dans une chambre d'hôtel, au quatrième étage de cet hôtel. Et donc, lui, il va faire un pèlerinage parce que, bon, pour lui aussi, il n'y a pas que la country, il y a le blues, mais Robert Johnson, pour lui, est mythique, puisque c'est Vince qui lui en a parlé, c'est Vince qui lui a fait découvrir ce bluesman, qui est un des pères du blues moderne.
Oui, apparemment, beaucoup se réfèrent à lui.
Ah ben oui, Clapton, Hendrix, tout ça, tous ces gens-là se sont référés à Robert Johnson, qui avait une technique guitaristique énorme et qui a produit de très grands morceaux de blues, quoi.
Oui, et alors ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait enregistré des disques que 2 ans avant sa mort.
Oui.
Internet, hein, excusez-moi.
Oui, non, là, pas que 2 ans avant sa mort.
Ils font des erreurs.
Quelques années avant sa mort, mais bon, pas 2 ans
d'accord.
avant sa mort.
Mais c'est vrai que, donc, alors, et ensuite, il se trouve que donc là, à ce moment-là, Cyril... Et le plus heureux des hommes, si vous permettez, je pense qu'on pourrait peut-être lire un extrait. Vous permettez que je le lise ?
Oui,
c'est vrai que vous n'avez pas votre livre.
Non, je n'ai pas le livre.
Alors, il n'avait pas compté, mais c'était peut-être la 100e fois qu'il se produisait sur une scène depuis le début de sa collaboration avec le vieux. Et chaque fois pour lui, la même intense sensation. Interpréter des chansons, voir les gens heureux et les écouter, c'était, soudain, il trouva ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Oui, c'était comme quand on offrait un bouquet de fleurs. Et leur vie à Randy et à lui consistait à offrir des bouquets musicaux. Ils étaient des fleuristes des tympans. Voilà, sans le savoir, sans même l'imaginer, c'était ça qu'il était venu chercher dans cette aventure hasardeuse. Rendre des gens heureux avec des notes. Il en était convaincu. Cette vie serait désormais sa vie. Jacqueline, la fac, c'était loin. Il sirotait lentement sa bière avec ce sentiment de plénitude qui vous envahit quand un rêve devient réalité. Voilà, le rêve des bonheurs, plénitude, alors que tout avait démarré par une rupture.
Alors, tout démarre par une rupture, oui, effectivement.
Voilà. Il y a plusieurs reprises, lui ou vous s'interroge sur le destin et le hasard. Alors, le premier épigraphe, et les deux sont très intéressants. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence du hasard sur l'existence de tout être. Se trouver à un certain endroit, à une certaine date, à une certaine heure, peut bouleverser la trajectoire d'un individu. Et là, je me suis dit, mais est-ce que vraiment il y a du hasard ?
Alors en fait, c'est aussi un mythe, c'est le mythe du croisement qu'on rencontre souvent, le crossroads, oui. Qu'on rencontre souvent dans la chanson de country, ou dans la chanson de folk, ou même de blues surtout. C'est, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais tout droit, est-ce que je reviens en arrière ? Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est le destin ?
Voilà, oui, parce que la rupture avec Jacqueline, si elle n'avait pas eu lieu, la vie de Cyril aurait été tout autre.
Il serait devenu professeur de français, donc il se pose des questions.
Quelque chose de plus banal, finalement.
Quelque chose de plus banal, voilà. Donc est-ce que la vie, les chemins, est-ce que c'est du hasard, est-ce que c'est du destin ?
Oui.
Grande question. C'est aussi une des grands thèmes de ce roman, quoi.
Oui,
il y a la transmission artistique, mais hasard, destin.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a le hasard des rencontres, et en même temps, il est destiné, il est toujours mené par son amour de la musique, et il va de spot en spot. En fait, ce sont des personnes qui lui passent le relais.
Oui, à chaque fois, sur son chemin, sur sa route, il a toujours le choix. Il va à droite, il va à gauche, ou il rencontre des gens, un petit peu comme ça arrive souvent dans la vie.
Bien sûr, exactement.
Mais est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est le destin ? Est-ce qu'on le provoque ? Est-ce qu'on ne le provoque pas ? Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que ce n'est pas écrit ? Personne n'a la réponse.
Oui,
non, même lui...
On ne peut pas avoir de vie pour comparer.
Voilà, on ne peut pas avoir de vie pour comparer, mais c'est un des grands thèmes de ce roman aussi, c'est
oui.
Hasard,
d'ailleurs,
destin.
On le retrouve chez vous, Jefferson Noiset, puisque c'est votre nom de scène, si je peux dire. Dans l'album de La Lune au Soleil, il y a une chanson qui s'appelle « La passante du hasard ». Voilà, moi j'aimerais qu'on l'écoute un instant. C'est votre groupe de musique. Alors, est-ce que c'est de la folk ou de la country ?
C'est un mélange, c'est ce qu'on appelle de l'americana. C'est un mélange de... On prend un peu de blues, on prend un peu de country, on prend un peu de folk, on mélange tout ça, et ça donne de l'americana. C'est un mélange de toutes les musiques racines des États-Unis.
Et j'aimerais aussi que Christophe, notre technicien à l'œuvre, là, en ce moment, nous fasse écouter un petit peu un extrait, alors découverte de Jefferson Noiset, c'est à Toulouse que ça se passe, un extrait où vraiment là aussi on sent que vous êtes dans la country ou dans la folk, ça, bon, chacun choisira.
Peu voilà. Importe l'étiquette.
Ce jour-là, moulé dans un bûche chocolat, un déhanché sur vos talons faisait tanguer vos cheveux blonds. Belle passante du hasard, au milieu de la rue des Arts, je n'ai pas perçu le secret caché par le regard discret de vos grands yeux posés sur moi. Était-ce dédain ou émoi ? Faut-il vraiment vous l'avouer ? Si mon regard vous dévorait, je n'ai pas eu envie de vous. Je vous contemple et voyez-vous comme un tableau que l'on admire. Pour un regard, pour un sourire, pour une touche de pastel sur un nuage dans le ciel, pour une beauté trop fugace qui vous laisse comme une trace.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, alors nous retrouvons Jean-François Bessière qui vient nous parler de son roman Ne pas briser le cercle. C'est à la fois de l'écriture et de la musique, parce que la musique on l'entend. Alors écoutez, je suis curieuse et moi du coup je suis allée écouter beaucoup de musique en lisant votre livre. Et on l'entend, on l'écoute avec plaisir et on découvre. Alors, il est au maximum du bonheur, tout paraît marcher, pas financièrement, il n'en parle jamais d'ailleurs. Hein. Je ne crois pas que ce soit le
c'est le, pas le but.
Le but, oui. Mais, catastrophe, mort de Randy, pour une expression un peu triviale, il ne suçait pas des cordes depuis.
Voilà.
Hein. Et il meurt, et pour lui, c'est vraiment, là aussi, la mort d'un père, d'un maître. Et, par chance, il y a aussi, hasard, destin, il y a la sœur de Randy. Qu'est-ce qu'elle lui propose? Il y a deux choses qu'elle lui propose.
Alors, il y a la sœur de Randy qui... Randy lui parle beaucoup de Cyril. Et donc, au moment de l'enterrement, bon, Cyril est admis à l'enterrement. La famille l'invite à l'enterrement.
Il fait partie de la
famille. Mais ils n'ont pas le temps de discuter. Et quelques jours après, bon, lui, il se pose des questions. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Il est là, planté tout seul aux États-Unis. Il ne sait pas quoi faire. Et la sœur de Randy le contacte et lui dit « Viens nous voir ». Donc à Murfreesboro, qui est à côté de Nashville, viens me voir et on a quelque chose pour toi. Et donc il y va, et donc là, elle lui dit, écoute Randy, on pensait peut-être qu'il pensait que ses jours étaient peut-être en danger, et avant de partir, il nous avait dit, si je pars, donnez ma guitare au Frenchie.
Ça, c'est le plus bel héritage qui lui soit fait.
Voilà.
Alors... D'une part, il y a...
Donc là, on est toujours dans l'idée du cercle transmission.
La passation, voilà, la transmission, exactement. Voilà. Et puis, encore une forme de transmission, elle lui dit, elle a une nièce donc qui cherche un duettiste, qui chante de la country, et elle cherche un musicien. Et le voilà parti, à nouveau en tournée, à la Nouvelle-Orléans, et on sait bien que la Nouvelle-Orléans, c'est la patrie du blues, oui. Vraiment... Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que vous parlez de la méfiance des Français. Vous l'avez ressenti, vous, cette méfiance à l'égard des Français ?
Non, pas tellement, mais c'est vrai qu'on peut paraître un peu comme des gens un peu hautains, arrogants, etc. Donc, c'est vrai que Cathy, puisque c'est la petite nièce, elle le reçoit, mais elle avait un peu peur. Puis en fait, bon, elle se rend compte qu'il joue très, très, très bien de la guitare, qu'on ne l'avait pas menti. Et donc, elle dit, bon, on va en faire un duo tous les deux.
Oui,
quoi.
Oui, et tout le monde est étonné que ce soit un Frenchie qui se débrouille si bien. Ça, c'est vrai qu'il ne rencontre pas tellement de Français... musicien dans leur domaine. Et donc, tournée en Californie, séparation parce qu'on propose à cette jeune femme autre chose. Il se sépare sans problème. Et il rentre en France. Alors, là aussi, arrivé en France, il me semble que là aussi, de quoi vit-on dans ces cas-là?
Ben là, lui, il vit de la Manche. Hein.
Ouais.
Il vit de la Manche. Et puis, bon, on ne va pas rencontrer tous les soirs, mais un jour dans le métro, il rencontre quelqu'un qui lui dit « Tu joues bien, on a besoin de quelqu'un comme toi dans un studio. » Et il se retrouve à faire le session man dans un studio à Paris.
Voilà. Et justement, en faisant la Manche, moi, je parlais de rencontres professionnelles. Mais il rencontre quelqu'un qui va... Ce n'est pas une rencontre professionnelle, c'est Marie. Et ça va être le coup de foudre de part et d'autre. Voilà, Marie qui va lui amener cette stabilité qu'il n'a pas, puisque c'est un vagabond jusqu'à présent, d'une certaine manière.
Voilà, lui, c'est un routard, quoi, en gros.
Un routard,
hein.
Voilà.
Et donc, il rencontre Marie qui, elle, travaille dans une maison d'édition, qui a le rêve de devenir écrivaine, qui commence à écrire quelques trucs. Et donc, ils vont se rencontrer en tant qu'artistes. Et ça va être aussi une transmission, quelque part, entre deux artistes, quoi.
Oui.
Entre l'écriture que lui pratique, qui commence à pratiquer en faisant des chansons, et qu'elle commence à pratiquer en faisant en écrivant des romans.
Voilà, alors donc, lui, il fait la Manche, il donne des cours de guitare, il chante, il fait du picking,
oui.
Dans un cabaret. En fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux de jouer avec trois doigts ou en quoi est-ce...
Il n'y a pas mieux. C'est simplement c'est une technique différente, mais on peut très bien jouer avec trois doigts et puis après avec le médiator, ça, c'est pas un problème.
D'accord. Bon, il va falloir que j'écoute encore plus attentivement. Il a un premier enregistrement et c'est une réussite, ce qui est encourageante. Bon, et entre-temps, il a des amis, il se lie avec des amis. Il y a Fabien, un luthier. Très intéressant, ça aussi, le travail du luthier.
Oui, en fait, il se rencontre avec Fabien, il se rencontre Lui, il revient des États-Unis juste après 68.
Oui.
Donc, il se rencontre, il est hébergé chez des copains à Paris qui vont à une manifestation. Et lui, il est pris dans cette manifestation, il n'y connaît rien, lui.
Fabien est très politisé.
Voilà. Oui. Voilà. Et il tombe sur un gars qui lui dit viens vite parce qu'ils vont charger. Il héberge chez lui, chez sa copine, et ils deviennent amis.
Oui.
Et lui, par la suite, donc, qui est très militant, maoïste à l'époque, et ce Fabien, donc, et donc un jour, il va aussi tomber amoureux d'une guitare, et donc il va les fabriquer, lui. D'accord. Et donc il va aller à l'école de mi-recours et suivre l'école de lutherie.
C'est très intéressant, cette fabrication d'instruments, cette fabrication de guitare. Il y a également un lien entre le luthier et la guitare.
Oui, bien sûr.
Avec d'autres instruments aussi, probablement. Alors, il y a le départ dans le Pays Basque, à Cibourg. Et là aussi, il y a une question sur la création. C'est très intéressant. Marie qui aimerait écrire, mais qui hésite à écrire. Vous-même, vous écriviez, mais vous m'avez dit, des articles de journaux, des textes, des résumés. Enfin, c'était assez concis, mais y compris les paroles de chansons. En fait, qu'est-ce qui vous avait fait franchir le pas ?
L'envie.
Voilà, il faut oser, l'envie.
Moi, je fais partie de la génération du « do it ». T'as envie de le faire, tu le fais.
Oui. Alors, il crée beaucoup. Alors, j'avais noté page 99, son univers, c'était des heures en solitaire à répéter encore, se bousiller les doigts pour enfin avoir le bonheur de pondre la mélodie parfaite, le solo qui sonnait. C'était des journées à sculpter les paroles d'un texte, à traquer le bon angle, la bonne tournure, à inventer la bonne métaphore, à piquer le mot adéquat, à raconter une histoire en 3 ou 4 minutes, évoquer des images telles qu'au final l'auditeur se construit son propre film. Parfois, c'était aussi, pendant des jours, douter de son talent devant une feuille blanche, au point de craindre l'assèchement définitif de sa créativité. Très bon ce passage aussi sur la créativité. Le travail, est-ce que les gens se rendent compte du travail que cela demande ? Et un travail que l'on se donne à soi-même, avec des limites que l'on se donne, et surtout sans être sûr d'y arriver, c'est quand même...
Oui, vous avez...
Mais c'est un plaisir aussi. Allez, dites-le.
C'est un plaisir, c'est une torture et un plaisir. C'est une torture au plaisir, disons, si j'ose dire. Mais bon, enfin, vous avez certainement vu aussi que dans ma liste d'artistes que je cite Francis Cabrel, qui pour moi est un des sculpteurs, des bijoutiers de la chanson française.
Folksong.
Peu importe, oui. Il est très inspiré, effectivement, oui. Il est très inspiré par la musique américaine, il ne veut pas le dire, mais bon, il est très inspiré par la musique américaine, mais pour moi, c'est un des sculpteurs de mots et un sculpteur de métaphores.
Vous êtes allé chez lui ?
Non, je ne suis pas allé chez lui, je l'ai rencontré une ou deux fois, mais je ne suis pas allé chez lui. Enfin, quand on prend ne serait-ce que la corrida, bon... C'est un morceau extraordinaire, se mettre à la place du taureau. Et tout. C'est à la fois un travail journalistique, c'est trouver un angle.
Oui.
Une chanson, c'est trouver un angle.
Oui.
Parce que parler de l'amour, depuis les troubadours, on parle de l'amour. Mais comment en parler, c'est trouver, il faut trouver l'angle, le bon angle.
Sans répéter. Voilà, en créant à nouveau. Alors, il y a la formation d'un trio. Et là encore, c'est que l'on voit, il y a des duos, il y a des groupes, il y a des trios qui se forment. Et là, c'est un trio. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'amitié prime plus que même le talent. Vous dites qu'à un moment donné, plutôt que le musicien parfait, c'est l'amitié, l'entente, l'harmonie en quelque sorte, la confiance. Vous le dites.
Oui, parce que quand vous êtes en groupe, que vous faites une tournée, il faut qu'il y ait de l'entente.
Oui.
S'il n'y a pas d'entente.
Oui.
Donc des fois, il vaut mieux avoir un musicien qui joue un tout petit peu moins bien, qui est moins performant, mais qui a un caractère avec qui vous vous entendez.
Oui.
Sinon, ça ne peut pas marcher. Quoi. Sinon, sur scène,
c'est... Oui, parce que dans les tournées, ça peut être long. Hein,
ça peut être long, mais c'est pour les musiciens, pour les théâtreux, enfin, pour tous les gens qui tournent. Quoi.
Alors, ce qui m'a amusé, c'est le look de chacun. Qu'est-ce que ça suppose? Est-ce qu'il y a vraiment... Il y en a un qui est habillé d'une manière tout à fait américaine, avec la casquette, avec la chemise... je ne sais pas si c'est en jean d'ailleurs, j'en sais rien, je ne me souviens plus maintenant, je n'ai pas noté.
Oui, non, c'est une chemise en jean.
Mais chacun a un look très particulier.
Oui, chacun crée son look.
Oui. Bon, il y a, et puis quand ça marche, il y a le passage à la radio, il y a les chroniques dans les revues spécialisées. Ce sont des exercices fastidieux, je suppose, pour souvent, mais c'est nécessaire.
Mais il y a des artistes à qui ça plaît. Là, Cyril, ça ne lui plaît pas. Lui, il dit, moi, je passe des heures à répéter, à créer, etc. Oui. Les gens, donc, ils écoutent mes chansons, puis ça suffit. C'est d'ailleurs ce que dit un peu Cabrel. Et qu'a fait Cabrel pendant tout le long de son...
C'est vrai qu'on n'entend pas trop, non, effectivement. Non.
Ouais. Si vous voulez me connaître, écoutez mes chansons.
Oui, oui.
Et donc Cyril est un peu est comme ça, quoi. Donc il y va parce que bon, il est obligé, mais c'est pas sa passion au départ.
Oui. Alors il y a aussi tout un passage qui est très intéressant sur le vieillissement, l'âge donc et la mort. Est-ce que cette question du vieillissement est plus présente encore quand on se produit en spectacle?
Ben oui, parce qu'il y a... Enfin, on va pas donner la fin du roman.
Ah non, j'ai pas
mais,
prévu. Hein.
Non. Mais oui, il y a le vieillissement, mais qui fait que quand vous vieillissez...
Les doigts sont moins souples.
Il y a l'arthrose dans les doigts, il y a le fait que, tourner, ça devient un petit peu fastidieux, qu'il y a un peu la lassitude, et puis bon... Et aussi la crainte de la perte de mémoire, etc. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais
non, mais c'est la vérité. Oui. Regardons-la en face.
Oui.
Cette mort présente, c'est vrai aussi que beaucoup de musiciens autour de lui, qu'il a rencontrés et auxquels il était vraiment attaché, étaient plus âgés et sont morts.
Il y a beaucoup de monde qui meurt autour de lui. Il y a d'abord Randy, et puis après, il y a Marie, son épouse.
Oui.
Donc ça fait...
Vous voyez, j'en aurais pas parlé. Bon.
C'est la première page, de toute manière.
Oui, c'est vrai.
C'est la première page, on peut en parler.
Oui, alors Marie écrit, enfin. Alors, si une guitare pouvait parler... Et alors, c'est très drôle, parce qu'elle parle des relations entre des musiciens avec leur instrument, et sous forme d'une interview. Là, c'est pour le coup l'interview. On parlera dans la manière dont vous avez écrit, parce que là, c'est une interview. À un moment donné, vous donnez un avis de décès, et oui, celui de Marie, et puis il y a une lettre aux parents également, donc vous changez de style aussi. Hein. Marie écrit, et elle parle de la fabrication d'une guitare. Et donc, c'est là où on se rend compte que la lutherie actuelle est sans doute différente. Il y a une évolution.
Oui. En fait, c'est un peu une poupée russe, cette interview.
Oui.
Parce qu'en fait, elle raconte un peu l'histoire de Cyril à travers un roman, à travers une guitare, où elle s'inspire d'une guitare qui, elle aussi, est un fil rouge dans son roman, et qui est le fil rouge dans le roman aussi. Donc, en fait... Il y a un genre de poupée russe qui se met à l'intérieur du roman.
Elle parle des relations de Cyril avec sa guitare, dont elle peut être un peu jalouse.
Et oui, parce que bon, qu'est-ce qu'il raconte à sa guitare? Qu'est-ce que sa guitare lui raconte? Alors, elle n'est pas jalouse, mais bon, elle se pose des questions. Et puis, elle dit, bon, cette guitare qui passe de guitariste en guitariste, elle se met à la place de la guitare.
Oui, c'est ça.
On en revient sur l'histoire de...
La guitare qui a ses préférés, ses joueurs
préférés.
Préféré.
Il y a un musicien qu'elle ne peut pas voir, parce que c'est un musicien de hard rock qui la malmène, alors qu'il y en a d'autres. Et puis bon, elle revient, bon, on va pas dire la fin du roman, mais...
Bien sûr, non, on n'en parlera pas.
Voilà.
Alors, il se trouve que Cyril écrit un morceau qui est repris par un groupe californien et qui apparaît au Top Country US, c'est la gloire, un morceau écrit par un Frenchie, ça doit être rare, non?
C'est très rare, c'est arrivé, mais c'est très rare. Et donc, pour lui, c'est encore, on est toujours encore sur le truc, sur l'idée du destin, du hasard, quoi.
Oui.
Parce qu'en fait, il va faire un voyage avec Marie aux États-Unis, il va revoir Cathy, donc la duettiste avec qui il jouait, et... il donne son album, son dernier album, à Cathy, qui le fait écouter à des copains qui ont un groupe de country. Et le chanteur du groupe de country tombe amoureux d'une chanson et il demande à Cyril l'autorisation Donc c'est vraiment un truc de hasard, quoi. À 7000 km, il y a un gars qui tombe sur sa chanson et ça devient...
Oui.
Ça rentre dans les top country, quoi. Voilà. Le top country, pardon.
Voilà. Alors il fait un retour en arrière en évoquant justement sa vie. Il imagina tout ce qu'il n'aurait pas vécu sans ces trois mots. C'est-à-dire quand Jacqueline lui dit qu'elle en aime un autre, Randy, les virées à Greenwich Village, les tournées dans la Pontiac Catalina, la Martine en héritage, la virée en Californie en compagnie de Cathy, la communauté de San Geronimo, et puis Marie, apparition magique dans le couloir de la station Maubert, les années rue Quincampoix, Émilie en cadeau, leur petite fille, les séances studio, les joies de la scène avec Dan et Michel, et maintenant cette nouvelle incroyable, parce qu'un soir, il y a quelques mois, à 7000 km de là, Cathy avait mis par hasard son deuxième album sur la platine. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour. Pas tout, évidemment. Oui, j'ai parlé un petit peu de la forme. Il y a des retours en arrière, des allées et venues dans le temps, hein, qui nous permet de voir un petit peu tout ce qui est la base aussi de cette vie. Il y a des inclusions de pièces annexes. Et vous, je me suis posé la question, comme Marie, quand elle écrit le journal d'une guitare, est-ce que vous avez des rituels pour écrire ?
Alors,
je vous coince, hein, parce que vous parlez de Marie.
Non. En fait, pour ne rien vous cacher, il faut que j'ai du mouvement autour de moi pour pouvoir écrire.
Ça, c'est pas courant.
Donc, je vais à la médiathèque.
D'accord.
Au milieu des étudiants. Et là, je suis bien parce que j'ai un peu, de temps en temps, il y a des discussions qui me gênent, mais je suis là, j'ai déjà les gens, je reste devant moi. J'ai cette ambiance studieuse que je n'ai pas chez moi, où je suis en solitaire,
oui.
Et je
ne
peux pas supporter ça. Et puis après, ce que je fais, c'est que... Alors, je mets mes idées, j'écris un peu, etc. Et puis après, je marche. Je marche beaucoup.
D'accord.
Donc... La structure, le squelette vient en marchant. Donc quand je rentre, je mets les idées, je repars à la médiathèque et j'écris. En fait, tout le bouquin, je l'ai écrit pratiquement à la médiathèque.
Bon, alors donc, si vous voulez rencontrer Jean-François Bessières, allez à la médiathèque. En tout cas, un grand merci de nous avoir ouvert ce monde musical, cet univers. C'est porteur de toute une histoire, de toute une culture, de tout un espace de liberté, d'aspiration à la liberté. Porteur d'humanité aussi. Hein.
Mais c'est à la fois... Alors, C'est à la fois un livre où on parle de musique, effectivement, mais on parle d'amour, parce qu'il y a une grande histoire d'amour, une histoire de passion artistique,
mm-hmm.
Et puis bon, peut-être aussi on parle de la fin qui nous attend à tous, et donc il y a une réflexion aussi
oui,
là-dessus, et sur le hasard ou le destin, ça, chaque lecteur choisira son camp.
Voilà, et si vous le voulez bien, on terminera cette émission par un extrait joué par Robert Johnson. Hein. Alors là, ça sera notre technicien chef qui décidera. En tout cas, un grand merci, Jean-François Bessières. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, sans doute qu'on vous fera appel à vous pour une initiation à tout ce genre, ces genres musicaux. Au revoir.
Merci de m'avoir reçu. Au revoir. California, my sweet home, Chicago.